permettez même pas à faire il y a un an. Nous avons plusieurs nouveaux frères et sœurs qui ont beaucoup grandi dans l'année qui vient de s'écouler. Et je suis très encouragé par ça et j'espère que ça continue. Asseyez-vous. Je suis encouragé par une autre chose, c'est qu'il y a un an, je n'aurais pas pu être debout devant vous pour prêcher un sermon comme aujourd'hui. C'est toujours un peu difficile. Et ce matin, j'ai des choses que j'aimerais dire. Et j'ai pensé à ces choses depuis des semaines maintenant. Et comme d'habitude, quand je prêche, je vous parle, c'est tout. Je lis les Écritures. Mais ce matin, je voulais dire quelque chose très précis. Et je savais que si je ne les écrivais pas sur les feuilles, que je ne pourrais pas finir avant une heure. Je ne veux pas prendre une heure, surtout ce matin parce qu'on est en retard, mais ça ne fait rien. Donc, je vais lire pour la plupart la leçon de ce matin. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça va être un peu moins personnel, mais la chose qui compte, ce sont les paroles de Dieu et pas la réaction que vous avez avec moi. Donc, écoutez bien. J'espère que c'est intéressant pour vous et que ça vous aide dans votre vie chrétienne. En parlant avec les gens concernant les choses de Dieu, de la religion et de la vie spirituelle, je rencontre souvent une même attitude. Les gens expriment cette attitude de plusieurs façons différentes, mais le résultat est le même. Je vais vous donner deux phrases classiques que j'entends très souvent, et puis je vais vous donner une troisième que j'ai entendue cette semaine qui résume bien la pensée à la base de ces attitudes. Et ces attitudes se trouvent sur les feuilles que vous avez. La première, toutes les religions du monde sont bonnes. Il faut que chacun choisisse la religion qui lui convient le mieux. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose de semblable? Okay. La deuxième, peu importe ce que l'on croit, tant que l'on est honnête, gentil et bon. Vous avez entendu quelque chose comme ça, sûrement. La troisième phrase, je l'ai entendue mercredi sur Antenne 2 pendant les informations de midi. Je la trouve très à propos parce que celui qui l'a prononcée se dit chrétien. C'était un médecin âgé que l'on interviewait au sujet de la pratique d'administrer des drogues fortes aux malades graves. C'est de nos jours une question vivement controversée et ce médecin avait là-dessus des opinions très précises. À la fin de l'interview, l'intervieweur a demandé à ce médecin s'il était croyant. Il me semblait que l'intervieweur voulait discréditer l'opinion de ce vieux médecin en montrant aux téléspectateurs qu'il prenait son origine non dans la science moderne, mais dans la religion démodée. Mais quelle occasion pour ce médecin de témoigner de sa foi? J'attendais avec beaucoup d'impatience sa réponse et je n'étais pas déçu. Il a dit exactement ce que j'attendais. Le médecin a répondu que oui, il était croyant, mais que cela n'avait rien à voir avec la chose en question. Puis il a continué, et c'est sur votre feuille aussi. Nous vivons dans une société pluraliste où on ne peut pas imposer sa propre moralité sur les autres. Fin d'interview. Vous avez sûrement entendu quelque chose comme ça aussi. Le danger de ces phrases et de l'attitude qu'elles représentent, c'est qu'elles contiennent un peu de vrai et beaucoup de faux. Pour la première phrase, il y a des bonnes choses dans les religions du monde, c'est vrai, telles que les codes moraux, etc. Mais est-ce que cela veut dire que toutes ces religions viennent de Dieu, notre Créateur, et qu'elles lui plaisent? Est-ce que c'est vrai que nous avons le droit devant Dieu de choisir la religion qui nous convient le mieux? Est-ce que les aspects positifs que l'on trouve dans les autres religions annulent les paroles de Dieu qui disent, et vous avez le verset sur la feuille, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Les gens, pour la deuxième phrase, qui disent que c'est important que l'on soit honnête, bon et gentil, ils ont raison, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est cela qui nous sauve? Est-ce possible que notre honnêteté, notre bonté, notre gentillesse puisse annuler les paroles de Dieu qui disent « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Si nous aurions pu être sauvés par notre gentillesse, par notre bonté, par notre honnêteté, Jésus ne serait pas venu. Il est venu parce que nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes. Il fallait le sacrifice de Jésus. Et pour la troisième phrase, que nous vivons dans une société pluraliste, je remercie Dieu que nous vivons dans une société pluraliste où on ne peut pas imposer sa propre moralité, sa propre politique ou quoi que ce soit sur les autres. C'est formidable que nous ayons la liberté de choisir le chemin que nous voulons suivre dans la vie. Mais je veux vous demander une chose. Le royaume de Dieu est-il une société pluraliste? Le pluralisme est une philosophie, une doctrine suivant laquelle les êtres sont multiples, individuels, écoutez bien, et ne dépendent pas d'une réalité absolue. Dans une société pluraliste, tout est à débattre, parce qu'il n'y a pas de réalité absolue. Chacun a le droit à ses propres opinions, tant l'accent se porte sur l'individu. Et en tant que philosophie de gouvernement, je trouve que le pluralisme est formidable. Cela donne beaucoup de liberté aux gens. Le problème est que beaucoup de gens veulent faire de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ une société pluraliste. Ces gens aimeraient dire que dans la vie spirituelle, les êtres sont multiples, individuels et ne dépendent pas d'une réalité absolue. Encore, tout est à débattre. Chacun a le droit à ses propres opinions. Tant l'accent se porte sur l'individu. Cette philosophie est très populaire parce que dans un sens, chacun devient sa propre réalité, sa propre autorité et son propre Dieu. Telle est la pensée de beaucoup de gens. Malheureusement, elle est fausse. Le royaume de Dieu n'est pas une société pluraliste. Et contrairement à ce que pensent la plupart des gens de nos jours, il y a une autorité morale absolue. Et ce n'est pas celle de l'homme. L'homme ne peut tout seul être sûr qu'il dirige sa vie dans le bon chemin. Salomon l'a bien dit dans les Proverbes, et vous avez le verset dans Proverbes 14:12. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Dès la création de l'homme, on peut voir que ce principe nous donné par Salomon est vrai. Malgré l'interdiction de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, Adam et Ève ont suivi la voie qui paraissait droite devant eux. Et ils ont découvert qu'à la fin, c'était bien la voie de la mort. Ils ont découvert qu'il y a vraiment une réalité, une autorité au-dessus de la leur. Les Israélites ont décidé à Mont Sinaï que toutes les religions se valent et que chacun devrait choisir la religion qui lui convient le mieux. Vous vous rappelez l'histoire? Pendant que Moïse était sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, les Israélites ont fabriqué un Dieu conforme à leur propre désir. et ainsi 3000 d'entre eux ont trouvé la mort. Ils se sont rendus compte trop tard que le royaume de Dieu n'est pas une société pluraliste où chacun a droit à ses propres opinions dans la mesure où ses opinions s'opposent à la loi de Dieu. Le principe que l'homme ne peut tout seul diriger sa vie dans le bon chemin est aussi valable aujourd'hui qu'il était au temps de Salomon, d'Adam et Ève et des Israélites. C'est pourquoi l'homme a besoin d'une vérité, d'une autorité absolue pour lui révéler ou éclairer le bon chemin, le chemin qui mène à la vie et pas à la mort. Et cette vérité, cette autorité absolue ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Lisons ensemble dans vos Bibles l'Évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons voir dans ces versets ce que c'est l'autorité et la réalité absolue. Je vais demander à Franck, est-ce que tu aimes lire pour nous? C'est assez long, mais tu peux. Verset 1 à 18, ok?
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde n'a pas été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
Quelle est la réalité absolue? J'attends. Quelle est la réalité absolue?
Jésus.
Au commencement était la parole. Jésus a toujours existé. Et c'est ça la réalité absolue. On peut essayer de se débarrasser de cette réalité, mais c'est la vérité, c'est vrai, on ne peut pas. Et cette réalité est devenue chère. Pourquoi?
Pour nous révéler Dieu.
Pour nous faire connaître cette vérité, cette réalité absolue. Et en devenant chair, Jésus est devenu aussi notre sauveur. Donc c'est ça la réalité absolue, que Jésus a toujours existé, qu'il est devenu chair pour nous faire connaître cette vérité ou cette réalité absolue. Il nous aime, il nous a tant aimé qu'il voulait donner sa vie pour nous sauver. Donc il est devenu notre sauveur. Vous avez sur les feuilles là un verset en 1 Timothée 1:15 où Paul a écrit que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. J'aime beaucoup l'attitude de Paul. Il était assez humble de se rendre compte qu'il était pécheur, et ça c'est déjà quelque chose, parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont bons en eux-mêmes. Et Paul s'est rendu compte qu'il était pécheur. Donc il a pu recevoir les bénédictions de Jésus, de la réalité absolue. Un des versets les mieux connus dans toute la Bible est Jean 3, versets 16 et 17, où Jean a écrit les paroles suivantes. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. » Quelle belle histoire. Nous n'avons pas été laissés tout seuls. Nous ne sommes plus obligés de marcher dans l'ombre. Nous ne sommes pas condamnés de suivre le chemin qui mène à la mort. Nous avons un sauveur pour nous éclairer le chemin qui mène à la vie, qui mène à Dieu et à la vie éternelle. Mais pour accepter Jésus, il faut que nous l'acceptions comme Seigneur aussi. Et voilà le problème avec beaucoup de gens. Le monde aime penser à Jésus comme sauveur, mais il n'aime pas du tout penser à lui comme Seigneur. J'ai dit sauveur? Il aime penser à lui comme sauveur, mais pas nécessairement à sauveur. Seigneur, je mélange les deux mots. Ok. Vous comprenez? C'est ça qui compte. Ils ont pensé à lui comme sauveur, mais pas Seigneur. Ok? Mais nous allons voir que les deux sont inséparables. On ne peut pas les séparer. Le mot Seigneur vient du mot grec qui veut dire maître. C'est vrai que le chemin de Jésus mène à la vie, mais ce chemin est un chemin exclusif où Jésus est le maître. Il n'est que pour ceux qui sont prêts de suivre Jésus jusqu'au bout. Lisons ensemble ces paroles de Jésus en Jean 14, 6, où Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est assez exclusif, n'est-ce pas? Mais ce sont les paroles de la réalité, de l'autorité absolue. Il a dit aussi en Matthieu 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui trouvent le chemin qui mène à la vie? Ils ne cherchent pas d'abord, ok? Je pense que c'est parce qu'ils n'aiment pas accepter Jésus comme Seigneur de leur vie. Ils aiment rester leur propre chemin. Et ils n'acceptent pas que Jésus soit maître. Ils veulent être leur propre maître. Ils aimeraient mieux suivre leur propre chemin. Et nous avons déjà lu que notre propre chemin mène où? À la mort. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de ce sauveur. Mais s'il va être notre sauveur, il va être notre Seigneur aussi. Mais même beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui appellent Jésus sauveur et Seigneur ont du mal à vraiment suivre Jésus. Ils disent une chose et ils font une autre. Jésus savait qu'il y avait et qu'il y aurait des gens comme cela, et il leur a adressé la parole assez souvent. En Matthieu 7, je crois que c'est sur vos feuilles aussi, versets 21-23, nous lisons cet avertissement de Jésus. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi Jésus ne va pas recevoir ces gens qu'il appelle « Seigneur » et qui font beaucoup de choses dans son nom? ils n'ont pas fait sa volonté. Donc, appeler Jésus notre maître n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit réellement. Et ça parle à nous, n'est-ce pas? Parce que nous appelons Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit réellement. Très tôt dans son ministère, Jésus a commencé à parler de sa souveraineté. Pendant cette époque, il avait beaucoup de gens qui le suivaient partout. Mais Jésus connaissait leur cœur. Il savait que beaucoup d'entre eux le suivaient à cause des miracles qu'ils avaient vus. Un jour, il a demandé une question à ces gens qui aurait dû le faire réfléchir. Et cette question se trouve en Luc, chapitre 6, c'était notre lecture ce matin. Il a dit en verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Est-ce qu'il était fâché qu'il l'appelait Seigneur? C'est ça qu'il voulait, n'est-ce pas?
Non, peu importe qu'il a fait Seigneur, parce qu'il passe, parce qu'il passe au moins sa volonté.
Ok.
Il a fait Seigneur dans le
Ok. Il voulait qu'il se rende compte que ce n'était pas suffisant de dire Seigneur. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? J'ai demandé aux petites ce matin, et même les petites savaient la réponse, connaissaient la réponse. J'ai dit, si on dit Seigneur à Jésus, mais on ne fait pas sa volonté, on est quoi? Des menteurs. C'est toi qui as répondu. Vous voyez même une petite à quel âge, Jeanne? Okay. Elle a 7 ans et demi, 8 ans. Elle savait déjà la réponse. De dire Seigneur ou Maître et ne pas faire sa volonté, c'est d'être menteur, n'est-ce pas? Et Jésus ne peut pas accepter ça. Il faut que nos vies soient d'accord avec nos paroles. Okay? En verset 47, il a dit, « Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. » Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Vous savez, j'ai toujours voulu être un dessinateur. Je n'arriverai jamais, mais j'aime le faire quand même. Jésus nous a donné une image, un dessin, si vous voulez, avec ces mots. Je voulais mettre ce dessin ou cette image sur un tableau pour nous montrer plus clairement ce qu'il voulait dire. Il a dit que les gens qui viennent à lui, qui entendent ses paroles et qui les mettent en pratique, ils sont comme les gens qui bâtissent leur maison sur un roc. Okay? Et si vous ne savez pas ce que c'est, voilà le roc et voilà la terre un peu comme le sable, c'est assez mou. Okay? Cet homme voulait bâtir sa vie ou sa maison sur le roc. D'abord, qu'est-ce que c'est le roc selon ces versets?
La mise en pratique.
La mise en pratique, ou on peut dire simplement l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Voilà la fondation, si vous voulez, de cette vie, de cette maison. C'est bâti sur le roc qui est l'obéissance à Dieu. OK? Mais quand on construit une vie, on n'a pas une maison, on n'a pas simplement la fondation, on a d'autres choses aussi. C'est pareil dans une vie, il y a plusieurs facettes. facette de nos vies, n'est-ce pas? Nous avons d'abord notre famille. Nous avons tous la famille. Je n'ai comme la porte de cette maison. La porte est importante, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une porte pour y entrer. La famille, c'est très important dans notre vie. Nous avons aussi nos amis. La vie sans amis, c'est un peu triste, n'est-ce pas? On est un peu seul. Nous avons aussi notre travail. Nous avons besoin de travail pour construire une vie, n'est-ce pas? Nous avons aussi nos loisirs. Il faut se détendre un peu de temps en temps. Nous avons aussi des choses. Nous avons nos vêtements, nos voitures et tout ce que nous avons, les choses. Donc, on a tout ça dans notre vie. J'aimerais vous demander quelque chose. L'homme qui bâtit sa vie sur le roc de l'obéissance à Dieu, s'il perd ses loisirs, qu'est-ce qui se passerait avec cette vie?
La vie continue.
La vie continue. Il va pouvoir rester debout, n'est-ce pas? Parce que sa vie n'est pas construite sur les loisirs. S'il perd les choses de ce monde, il peut continuer quand même, n'est-ce pas? Peut-être il va être un peu triste et il n'aime pas ça, mais la vie continue quand même parce qu'il a des choses qui sont plus importantes qui lui restent. S'il perd son travail, ça devient assez grave, n'est-ce pas? La vie devient plus difficile. Mais est-ce qu'il peut continuer quand même?
Oui.
Oui, il peut. S'il perd ses amis, c'est dur, n'est-ce pas? Mais il peut continuer quand même. Même s'il perd sa famille, est-ce qu'il peut continuer? Si. Parce que ce n'est pas la fondation de sa vie. Vous voyez? Et Jésus a dit ici, une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison. Nous avons tous les inondations qui nous attendent. Nous allons tous perdre des choses dans cette vie. Nous allons tous perdre des amis, beaucoup d'amis peut-être à cause de l'Évangile. Nous allons perdre peut-être un de ces jours notre travail. Et c'est sûr que nous allons perdre un de ces jours notre famille. Nous allons tous mourir. Si je ne meurs pas, je vais perdre ma femme ou mes enfants, ou ils vont me perdre. Et si nos vies sont construites sur ces choses, nous allons tomber comme cette maison qui n'est pas bien bâtie. L'autorité ou la réalité absolue, c'est Dieu. Et si nous ne construisons pas notre vie sur lui, nous allons tomber quand les inondations nous arrivent. L'autre maison, c'est exactement pareil que celle-là de l'extérieur. La couleur, c'est un peu différent, mais c'est tout. On ne voit pas de différence. Il faut qu'on regarde plus profondément que l'extérieur, vers la fondation. Dans cette maison, c'est bâti sur le sable, si vous voulez, la terre qui n'est pas très sûre. Cette vie est construite sur la famille, ou peut-être sur les amis. Le travail, ou les choses de ce monde. Il y a beaucoup qui bâtissent leur maison, leur vie sur les choses de ce monde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Oui.
Les loisirs. Et ici, j'ai mis les choses. Les choses de cette vie sont un peu comme la décoration, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir ces choses, mais c'est bien de les avoir quand même. Et on aime décorer sa maison et tout ça. Et vous savez, pour cette vie, la décoration de sa vie, elle n'est pas les choses, mais l'obéissance à Dieu. Ce qui était la fondation pour cette vie n'est que la décoration pour cela. Et vous savez, il y a beaucoup de gens dans notre monde qui aiment avoir pour Dieu une décoration. Dieu est quelque chose qu'ils mettent dans le placard. Et à Noël ou à Pâques ou pendant les mariages ou quelque chose comme ça, Il ouvre le placard pour montrer Dieu. Il est la décoration de la vie. C'est tout. Mais qu'est-ce qui va se passer quand cet homme perd sa famille? Déjà, la maison va commencer de tomber, n'est-ce pas? S'il perd ses amis, son travail, les choses et les loisirs, la maison va complètement tomber parce que ce n'est pas bâti sur quelque chose de solide, de sûr. Et Dieu, comme décoration, ne sert à rien du tout. Il faut qu'il soit la fondation. Donc j'espère que ça vous aide, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est l'homme, comment il a dit? On dit en anglais sage, mais ce n'est pas écrit là. C'était... Hein? Ok. C'est écrit sage là? Non. Il est son baba qui bâtit une maison. Mais vous voyez la différence entre ces deux vies. Pour terminer notre étude ce matin, j'aimerais lire encore un passage en Marc 8, versets 24 à 28, vous l'avez sur les feuilles. C'est un appel de Jésus de le suivre sur le chemin qui mène à la vie. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quiconque en effet voudrait sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Prions ensemble. Dieu notre Père, notre réalité et autorité absolue, aide-nous de ne pas avoir honte de celui qui nous a créés, de celui qui a donné sa vie pour sauver la nôtre. Aide-nous, Père, à se rendre compte que cela ne sera à rien de gagner le monde entier si nous perdons notre âme. Aide-nous, s'il te plaît, à perdre nos vies pour la cause de l'Évangile, afin que nos vies soient sauvées pour l'éternité. Donne-nous la force et le courage de nous renoncer à nous-mêmes, de nous charger de nos croix, et de recevoir Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de nos vies. C'est en son nom précieux que nous te prions. Amen.